Bonjour, vous êtes sur Radio B, la radio des bonnes ondes, dans l'émission Musique au pluriel, animée par Paul Turchet et Bruno Point. Paul et moi apprécions beaucoup les compositeurs de musique pour le cinéma. Nous avons déjà eu l'occasion de faire plusieurs émissions sur Ennio Morricone, Georges Delerue, Éric de Marsan, Gabriel Yared, Maurice Jarre et aussi Michel Legrand. L'émission étant centrée sur sa collaboration avec le cinéaste Demy, et nous ne manquons pas de faire une émission pour toutes les grandes autres musiques, notamment pour le cinéma, de Michel Legrand. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Bernard Herrmann, musicien américain qui a participé, on peut presque dire, au début du cinéma, et qui est un musicien singulier à présenter dans cette émission, car ses œuvres, par exemple, contrairement à Ennio Morricone ou à Gabriel Yared, pour n'en citer que deux, qui sont éminemment musicales au sens où on peut les écouter en tant que telles et les apprécier, et les aimer même, Bernard Herrmann, lui, c'est vraiment un musicien pour un film de cinéma, c'est-à-dire des musiques de suspense, des musiques d'ambiance, des musiques qui collent au cinéma, qui sont peut-être plus difficiles à écouter en tant que tel, hors le film que nous regardons. Néanmoins, ce musicien est très intéressant et a fait de fort belles choses, et nous allons donc nous consacrer à lui, car il mérite largement une émission dans le cadre de notre série d'émissions sur le cinéma. Démarrons par une de ses plus fameuses, qui est le Citizen Kane d'Orson Welles. Nous aurons l'occasion, Paul et moi, de parler de son parcours. Donc Citizen Kane, grand film s'il en est, avec une musique thème et deux variations.
Bernard Herrmann, né à New York en 1911, premier enfant d'une famille juive ashkénaze d'origine russe, il est encouragé vivement par son père à travailler et apprendre le violon, pour lequel il n'aura pas de don particulier, mais très très vite, il s'illustre par ses talents pour la composition, ses aptitudes, qui à 13 ans lui permettent de remporter un prix de $100, pour une pièce qu'il a composée sur le poème « Les cloches de Verlaine ». Dans son apprentissage musical et donc dans l'apprentissage de la composition, son livre de chevet sera le grand traité d'instrumentation et d'orchestration moderne écrit par Hector Berlioz. Grand, grand livre de chevet qu'il complétera par l'étude fréquente de la gestuelle de grands chefs d'orchestre qui sont Mengelberg et Stokowski. Il va s'imprégner également des œuvres de Maurice Ravel et de Bussy, et Bruno vous parlera également de ses contemporains. Voilà. Nous écoutons dans un premier temps la cantate. Il a composé une cantate qui s'appelle Moby Dick. Donc écoutons-en un extrait.
Paul a mentionné l'importance et la passion qu'avait Bernard Herrmann envers le traité de Berlioz. Il était aussi très féru auprès des musiciens de son époque, je pense notamment ni plus ni moins que Claude Debussy et Maurice Ravel, nos grands musiciens français, mais très ouvert sur le milieu musical de son époque. Il a fréquenté tous les grands compositeurs, soit déjà réputés, soit en devenir. Je pense notamment à Aaron Copland, il appréciait aussi beaucoup Charles Ives, il aimait, et c'était un homme très éclectique, Edward Elgar, musicien anglais quant à lui. Il a fréquenté aussi George Gershwin, donc on voit qu'il avait l'esprit très ouvert, en cela influencé par un personnage assez iconoclaste qui était Percy Grainger, qui était un des grands professeurs dans les écoles musicales de cette époque. Et il a rapidement intégré CBS, où il est devenu un grand compositeur pour la radio. À l'époque, la radio nécessitait beaucoup de moyens, car la télévision n'existait pas encore. Et à cette occasion, il a rencontré Orson Welles. Orson Welles qui fut vraiment son introduction dans le monde musical du cinéma, avec, nous l'avons déjà entendu, Citizen Kane, mais aussi maintenant la splendeur des Amberson. Autre grand cinéaste américain, Joseph Mankiewicz, avec lequel Bernard Herrmann va travailler, et notamment dans un merveilleux film que je vous invite à revoir, qui en anglais s'appelle The Ghost et Mrs. Muir, and Mrs. Muir, et en français a été traduit par L'aventure de Mrs. Muir. Et donc là, nous allons ressentir la puissance musicale de Bernard Herrmann. Je vous invite donc à écouter un extrait de la bande sonore de The Ghost and Mrs. Muir.
À partir des années de l'année 1955 et pendant une dizaine d'années, Herrmann va collaborer très étroitement avec Alfred Hitchcock. Il va composer bon nombre de musiques de films qui nous font rencontrer un petit peu sa technique de composition, faite de superpositions rythmiques, c'est une composition qui n'est pas toujours confortable pour l'oreille et qui va très très bien évidemment avec la musique d'Hitchcock qui fait ressortir l'angoisse des films qui imprègnent l'œuvre d'Hitchcock. Et donc cette collaboration va durer 10 ans et puis elle va cesser en 66 par une brouille. Il faut dire qu'Herrmann avait un caractère qu'on a qualifié parfois d'épouvantable et dont nous dirons qu'il était bien trempé. Écoutons un premier extrait, il y en aura un second, de la musique composée par Herrmann sur le film Sueur froide, autrement dénommé Vertigo. Nous allons écouter un second extrait de l'œuvre de Herman dans sa collaboration avec Hitchcock, avec ce grand film qui s'appelle La mort aux trousses, Cary Grant, avec des scènes tout à fait magnifiques, la scène de l'avion, etc. Voilà, film que nous connaissons tous.
Nous allons écouter maintenant une œuvre qui a le mérite et la singularité de pouvoir être écoutée en tant que telle, le concerto macabre de Bernard Herrmann. En l'occurrence, il s'agit d'une musique de film avec cette particularité qu'il s'agit d'un concerto composé par le personnage principal du film, George R. Webone, compositeur de musique dans un film qui s'intitule Hangover Square, et donc ce compositeur produit son concerto macabre. Donc nous avons là en quelque sorte un Bernard Herrmann qui écrit une œuvre qui serait celle d'un compositeur qui est le personnage principal du film et qui lui permet ainsi d'écrire une œuvre totale. Donc écoutons le concerto macabre.
Thank you.
Après avoir rompu une longue collaboration avec Hitchcock, notamment à l'occasion du film Le Rideau déchiré, qui va déchirer leur collaboration et leur amitié, Herman est contacté et il en sera très honoré par François Truffaut, qui va lui demander de composer en 1966 la musique de son film Fahrenheit 451. C'est le synopsis de ce film est intéressant. On peut entendre Truffaut parler de Herman dans une émission assez récente qu'on trouve en podcast sur France Musique, Les Trésors de France Musique, où il parle avec beaucoup d'émotion de sa collaboration avec Herman, dont il dit que c'était vraiment un compositeur qui aimait, qui était cinéphile, qui aimait le cinéma, qui intervenait parfois pour dire que certaines scènes étaient trop longues ou trop courtes par rapport à la musique. Enfin, c'était vraiment quelqu'un de très impliqué. Fahrenheit 451, 66, dans une société dystopique, la connaissance est considérée comme un danger. Ça rappelle parfois quelque chose aujourd'hui. Les livres sont en fait interdits et le pompier est en fait un pyromane. Il doit y mettre le feu. Bon, il y a toute une intrigue magnifique qui se noue et la rencontre avec une jeune fille qui, elle, lit des livres et est considérée par les autorités comme étant éminemment suspecte. Fahrenheit 451, 1966. Autre collaboration magnifique entre Truffaut et Bernard Herrmann, La Mariée, le film La Mariée était en noir, avec Jeanne Moreau, Jean-Claude Brialy, etc. Ce film noir, c'est le cas de le dire, où une jeune mariée voit son mari assassiné le jour de ses noces, elle en recherchera l'auteur et, bien entendu, elle le retrouvera et se vengera. Très beau film, toujours ces musiques angoissantes, ces dissonances parfois, ces accords augmentés, cette musique parfois un peu hypnotique qui marque la patte de Bernard Herrmann.
Après ce film, La mariée était en noir avec Truffaut en 1968, la carrière cinématographique en tant que musicien de Bernard Herrmann va vivre un moment de sommeil. Il va habiter Londres et là, il va renouer avec une des passions de sa vie, revenons à sa jeunesse, le chef d'orchestre. Il va enregistrer des œuvres de Sibelius, de Dukas, de Liszt, qui n'ont pas eu un vif succès en tant qu'enregistrement, à l'exception de Charles Ives, qu'il affectionnait particulièrement. Rappelons que précédemment, dans les années 50, il avait aussi écrit un opéra, Wuthering Heights, Les Hauts de Hurlevent, d'après Émilie Brontë. Mais donc, il va se consacrer à la musique orchestrale. Et puis, Hollywood se modifie, il y a une nouvelle génération avec deux cinéastes dont nous allons parler. Tout d'abord, Brian De Palma, très influencé par Hitchcock. Et c'est donc le retour de Bernard Herrmann avec le film Obsession. On voit là d'ailleurs dans le titre que l'on est dans une nouvelle génération de Hitchcock. Et Bernard Herrmann va à nouveau faire merveille pour produire une musique que l'on peut qualifier d'obsessionnelle, en tout cas qui marque le film, qui sous-tend le suspense et l'angoisse. Écoutons Bernard Herrmann dans Obsession. Autre metteur en scène avec lequel va collaborer Bernard Herrmann, il s'agit de Martin Scorsese. Martin Scorsese, américain bien sûr, mais d'origine sicilienne, il a vécu son enfance dans le quartier new-yorkais, le qualifié de Little Italy, qui lui a inspiré de nombreux films. Il va donc traiter dans ses films de la nature, de la présence italienne aux États-Unis, de ce mélange qui a formé les États-Unis. Il va être un cinéaste très important avec des films très violents. Nous écouterons d'ailleurs Taxi Driver qui a été un des très grands films de Martin Scorsese, qui à l'origine devait être confié à Brian De Palma. On voit dans tout cela donc un environnement assez commun, puisque le Brian De Palma, Martin Scorsese et derrière les deux, Bernard Herrmann. Il faut bien croire qu'il y avait là quelque chose qui les réunissait. Pour la petite histoire, signalons que c'est la dernière participation de Bernard Herrmann, qui va décéder à la fin du film, vraiment lorsqu'il a terminé la partition. Et pour la petite histoire, Paul vous avait exprimé qu'il avait mauvais caractère. À l'issue de sa dernière séance d'enregistrement, eh bien, les musiciens, étonnés, ont dit « c'est curieux, il n'a pas été désagréable ». Eh bien, il allait mourir la nuit même. Écoutons « Taxi Driver ». Nous avons écouté au cours de cette émission le travail de Bernard Herrmann dans tout d'abord Citizen Kane, film d'Orson Welles, sa cantate Moby Dick, le célèbre pourchasseur de baleines, La splendeur des Amberson, puis Mrs. Muir et son fantôme, Vertigo en français sueur froide, puis La mort aux trousses. Ensuite, l'intégralité de son concerto macabre, inséré à l'intérieur d'un film, puis Truffaut avec Fahrenheit 451, et La mariée était en noir, puis retour à Hollywood dans le nouvel Hollywood des années 70-75, avec Brian De Palma Obsession et Martin Scorsese Le Taxi Driver. Notre prochaine émission sera consacrée à un compositeur français. Nous avons déjà traité de nombreux compositeurs français. Et là, nous allons nous attacher à Édouard Lalo, grand musicien, fin musicien. Et puis nous poursuivrons d'ailleurs dans des émissions ultérieures sur d'autres compositeurs français qui sont peut-être moins fameux que Debussy, Ravel, mais qui n'en sont pas pour autant des musiciens extrêmement importants et qui nous permettront de faire ce panorama de la musique française. Et bien d'ici là, bon mois de novembre et à très bientôt. Bon mois d'octobre, pardon, et à très bientôt.